Vous pourrez découvrir Gulumbu Yunupingu, qui va être notre grande invitée, et peintre émérite, peintre aborigène, une femme extraordinaire qu'on va entendre dans son monde, dans sa société, celle des Yungu. Et pour nous guider, éclairer ce parcours, avec nous se trouve en direct l'anthropologue Jessica de Largy-Illy.
Ora, pensavo al nostro amore giorno fa.
La vita umana è inviolabile.
Bom velho, tô muito muito na peiano. Deu tanto manca que medi.
Que hora? E tu não assiste, Miguel?
Sa, me o tojite.
Ça prend que tu me lâches à 4 heures.
Tout un monde. La musique, la peinture, ce sont les principaux moyens qu'utilisent les aborigènes Yolngu pour dire qui ils sont, quelle est leur terre, qui sont les personnages mythiques auxquels ils se réfèrent et quels sont les droits qu'ils estiment avoir sur la portion du continent australien où ils résident. Quand un Yolngu peint, il décline à la fois sa carte de visite, sa généalogie, son rôle de gardien rituel d'un morceau du pays, son histoire personnelle, les valeurs qu'il souhaite transmettre aux siens et celle qu'il veut partager avec le monde extérieur. Peindre, c'est dire le monde dans sa totalité, dans son mystère, et c'est à la fois politique et poétique. Gulumbu Yunupingu, que nous allons rencontrer, a peint, donc au musée du Quai Branly, le plafond du deuxième étage qu'elle a semé d'étoiles, de grandes étoiles et de petites. Elle nous expliquera, eh bien, des étoiles parce que c'est le motif de son clan, mais ce qu'elle souhaite surtout, cette femme peintre, c'est partager, échanger, dialoguer avec le reste du monde, et c'est pourquoi elle nous a reçus chez elle. Il nous a consacré de son temps. Elle nous a accueillis parmi sa famille, qui comporte d'ailleurs des musiciens et des politiciens de grande renommée, qui ont contribué d'ailleurs à créer l'une des plus importantes manifestations culturelles aborigènes, le Garma Festival. Et puis nous avons eu ce grand privilège d'être reçus donc par cette matriarche qui règne sur une tribu de quelques 40 enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, et dont les dreamings, les récits mythiques, sont donc présents au cœur de Paris, sous la forme de ce plafond qui est là pour durer. Et puis aussi, pour manifester la résistance culturelle, politique des mondes aborigènes qui s'expriment dans un musée d'art dit premier.
You people don't know me.
Vous ne me connaissez pas.
And I don't know you.
Et je ne vous connais pas.
So we change.
Donc il faut qu'on change, il faut que ça change.
So that we can know. Each other and make
pour que
friends.
Nous fassions connaissance, que nous devenions amis.
From me to you all.
De people, moi à vous tous.
Like you in France, you can.
Vous en France, par exemple.
This picture.
Vous pouvez comprendre cette peinture.
The image of the stars that.
Cette représentation
there.
Des étoiles qui sont là-haut.
And it's a real.
Elles sont réelles là-haut.
We can all look up and see.
On peut tous lever les yeux et les voir. Il y a des étoiles qu'on peut voir.
We can't see.
Il y en a d'autres qu'on ne peut pas voir.
Hey.
Nous voilà donc véritablement aux antipodes, au sens géographique, peut-être au sens culturel. On va voir, c'est véritablement la rencontre de deux mondes. Cette émission va être cette rencontre, va essayer de l'être. Et puis c'est aussi ce à quoi s'efforcent les chercheurs, les anthropologues qui vont sur le terrain très longuement, dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Le niveau de rémunération et d'aide apportée à la recherche aujourd'hui étant très faible, et ces jeunes chercheurs comme ça qui sont sur le terrain, on va en retrouver tout au long de ces émissions. L'une d'entre elles est avec nous en direct, elle est revenue d'Australie et c'est peut-être en France la personne qui connaît le mieux le monde de Gulumbu, ce peuple Yolngu qu'on va découvrir, c'est Jessica Delargy-Illy. Bonjour Jessica.
Bonjour.
Alors vous êtes ce qu'on appelle doctorante, c'est-à-dire que vous êtes en train de rédiger un copieux doctorat de combien ? 200, 300 pages, 400 pages sur... Oui ?
Oui, ça dépend. 100 000 mots en Australie, puisque je suis inscrite en Australie aussi.
Alors oui, vous êtes à le HESS et puis vous êtes aussi à l'université de Melbourne. Alors vous avez passé de longs mois chez les Yolngu, qui sont un peuple parmi les différents peuples aborigènes assez exceptionnel par le maintien de sa tradition, qui est absolument intégrale, la langue, la culture, et puis une combativité politique aussi.
Oui, j'ai eu la chance de passer en tout un peu plus de 18 mois en Terre d'Arnhem entre 2003 et 2005, où j'ai travaillé sur l'île d'Elko, dans la communauté qui s'appelle Galewinku, qui est la plus importante communauté Yolngu. Et c'est vrai que les Yolngu ont depuis toujours une politique d'ouverture sur le monde extérieur qui leur a permis d'intégrer aussi bien les changements que les nouvelles technologies. Donc c'est ce qui m'intéresse moi dans le cadre de ma thèse.
Alors j'espère que l'émission justement va rendre justice à ces deux aspects, c'est-à-dire qu'ils sont véritablement détenteurs de leur identité, de la maîtrise de leurs moyens intellectuels, le lien social est intact, et puis en même temps ils se situent politiquement, mais en même temps ils ne sont pas exempts d'un certain nombre de maux sociaux dont souffre l'ensemble de la communauté aborigène en Australie. Alors tout de suite on va partir à la rencontre de Gulumbu au travail. Ça, c'est une scène, Jessica, que vous devez bien connaître. Gulumbu est devant chez elle. Elle est assise sous un banyan qui lui donne beaucoup de fraîcheur. Et elle frotte l'ocre sur une pierre plate. Elle fait exactement ce que faisaient sans doute nos ancêtres de Lascaux pour peindre les parois. Et on pourrait croire qu'on est au bout du monde dans une espèce de paradis. Mais à l'horizon, il y a quelque chose qui se détache et qui fait un peu peur. C'est une énorme mine d'aluminium. Donc, on est loin du monde, mais tout près tout de même du monde industriel, et Gulumbu très sereinement travaille, et près d'elle se trouve quelqu'un qui est très proche d'elle, qui l'aime beaucoup et qui est son gendre, Tony, barbu, les yeux bleus. Il s'avance vers nous, surprise, Tony parle français. Il est arrivé en l'an 2000 sur un voilier parce que il voulait voir le fameux Garma Festival.
Je suis venu ici en naviguant par la mer. Au niveau de ma relation avec les aborigènes, c'est important que je vienne de la mer, parce que bon, ils ont une tradition avec l'Indonésie. Il y avait pendant 200 ans, les Indonésiens venaient ici pour récolter les concombres de mer, et ils avaient des relations très importantes avec les aborigènes. Et actuellement, ma femme me prend comme si j'étais un Indonésien venant de la mer. C'est la position que j'ai actuellement dans la dans la société aborigène. Je viens de l'océan, de la mer.
Alors ici, donc au quotidien, vous travaillez de temps en temps avec Golombo. Vous êtes associé à son travail de peinture. Vous en êtes un témoin vraiment privilégié.
Oui, parce que bon, comme c'est ma belle-mère, dans la relation traditionnelle, je dois m'occuper d'elle. Donc, je m'occupe d'elle, par exemple, quand on va camper, donc de quel est le transport, quel est de quoi être confortable. Et je l'aide aussi à ramasser le matériel, par exemple. De temps en temps, je ramasse de l'ocre pour elle. Je m'assure qu'elle est toujours, qu'elle soit confortable et qu'elle ait du matériel pour travailler. Donc, je pense que les barrières viennent plus de nous que des aborigènes. Ils sont très accueillants. Et si vous êtes préparé à vivre comme eux, ils vous accueilleront toujours. Au moment où la mine de bauxite s'est installée ici, les aborigènes étaient très, très opposés. Actuellement, ils se battaient sur deux fronts, donc opposé aux mines de bauxite qui prenaient leur terre et tout ça. La raffinerie actuellement est juste de l'autre côté de la Belle. Et Golombo me racontait quand elle était jeune, elle était sur la plage, c'était un de leur terrain favori. Et donc ils ont tout rasé pour installer. Et les vieilles femmes étaient là à pleurer sur la plage, à s'arracher les cheveux. Pour elles, c'était impensable de faire ça à leur terre. Bon, les choses ont changé depuis. Maintenant, les relations avec les mines sont un peu meilleures, sont même bonnes. Mais bon, l'autre front, c'était que avec la mine, ils ont aussi amené l'alcool. Ils ont ouvert le premier bar en ville. Et donc, ces anciens, ils se battaient sur le front de la mine et aussi sur le front de l'alcool. Puis, ils avaient une vision très claire de ce que l'alcool allait apporter à cette société. Bien qu'ils avaient, très peu d'exposition, mais ils avaient la vision de ce qui allait se passer. Bon, ils ont perdu sur ce front aussi. Et maintenant, l'alcool est un problème assez important dans la communauté aborigène. À l'origine, quand les Blancs sont arrivés, ils ont dit, oh, cette terre, il n'y a personne, terra nulla. Et donc, ça a pris très longtemps pour que leurs droits soient reconnus sur leur terre. Certaines parcelles appartiennent à certains clans, d'autres parcelles appartiennent à d'autres clans. Il y a des frictions entre certains clans sur la propriété de certaines terres. Depuis que ces droits ont été reconnus, il y a des batailles légales qui traînent et qui sont très... Les compagnies minières sont très frustrées parce qu'elles n'ont pas, accès aux terres tant que ces choses légales ne sont pas réglées.
Voilà, donc longue tradition d'échange avec l'extérieur qui a pu s'avérer pernicieuse, puisque avec les Blancs, l'échange est devenu plus inéquitable. Il y a eu cette grande compagnie minière qui s'est emparée d'un morceau énorme de la terre des Yolngu, et notre peintre Golombo, elle aussi, a ressenti très durement cette invasion et la perte de ce qu'elle estime la partie la plus belle de sa terre.
Nous pleurons toujours à cause de cet endroit. Oui, nous pleurons. Notre cœur. Avant. Quand la compagnie minière est venue. J'ai vu les miens pleurer.
So now we're friends.
Maintenant, on est amis.
You're friends with them.
With them.
Nous sommes amis avec eux.
Why did people cry? Why?
For the land.
Pourquoi nous avons pleuré? Eh bien, pour la terre. Tout était détruit.
Is it a large
les arbres, les plantes,
bush medicine and everything.
L'hermite de brousse, tout.
Seafood.
Les poissons
that we eat
que nous mangeons
from the sea, from the land.
Qui viennent de la mer, ce qui vient de la terre.
Did you get money from them?
Yeah, royalty.
Ils nous ont donné de l'argent, des redevances. Ah, moi, je ne dépends pas des redevances.
No.
Je ne reçois pas de redevances, non. Moi, je travaille. Je peins. Je peins pour ma famille. Et pour l'argent.
So your money comes from your art.
Yeah.
Et mon argent vient de ma sueur, de mon savoir-faire.
Déclaration de fierté et d'indépendance, donc de Gulumbu Yunupingu, dont on va pouvoir très prochainement voir le travail de manière durable au musée du Quai Branly à Paris, au bord de la Seine. Alors, Gulumbu Yunupingu ne peint pas depuis très longtemps, elle peint depuis 7 ou 8 ans, elle a tout de suite excellé dans ce travail, et elle travaille au sein d'une coopérative d'artistes qui est située à Yirkala. Et cette coopérative à la fois sélectionne les œuvres en fonction de la qualité, donne du travail à tout le monde et répartit l'argent de manière équitable. On écoute tout de suite le directeur de du centre d'art de Yirkala, Will Stubbs.
Elle, ses sœurs, ses frères et probablement toute la famille peuvent et d'ailleurs chantent toujours l'identité de la forêt pluviale et des plages et des dunes et des arbres qui sont toujours là sous cette immense usine, comme s'ils étaient toujours là. Et pourtant, ça pourra revenir. Ça pourra revenir à son identité primitive à l'avenir. Vous avez vu hier la mine pour la première fois. Vous avez aussi un état d'esprit européen binaire. Il y a le bon, le mauvais, le naturel, le non naturel, des choses qui attirent votre œil. Elle, elle vit avec ça depuis 30 ans et son esprit est longu. Et c'est métaphorique et poétique et non pas binaire. Donc il y a plusieurs façons de le voir.
La famille Yunupingu ne compte pas qu'une peintre célèbre, Gulumbu, mais aussi des hommes politiques et des musiciens. L'un des frères s'appelle Mandawai. Il est chanteur et musicien.
Quand on perd notre terre au profit de la compagnie minière, non, on ne la perd pas complètement. On ne perd pas cet aspect spirituel de notre lien à la terre qui existe toujours. Comme j'ai dit, j'ai rien à perdre.
So you mean you still have a connection with the lands over which this big plant has been constructed, has been built?
Oui, nous avons toujours ce lien avec la terre sur laquelle la société minière a été construite. C'est la façon dont je vois les choses, personnellement. C'est que nous avons été dédommagés pour la terre, que nous avons perdu en ce qui concerne notre production traditionnelle. Et ce que vous avez vu là, avec l'acier, les produits chimiques, tous ces aspects du monde étranger qui nous est tombé dessus, qui nous a pris nos terres et nos croyances. Mais nous avons toujours maintenu la vie après la vie. Ça veut dire nous chantons les arbres et les commencements que nous avions eus bien avant que l'homme blanc ne soit venu. On conserve ça, on chante la terre qui était là avant l'acier. D'accord? Mais on chante aussi la terre après. Après la forêt. Après que la forêt a été éradiquée. Et on chante l'acier, la fumée, les produits chimiques. Ça devient partie de notre vie. Et il faut vivre avec.
I'm working on wood. I'm standing on steel. Darba galimara, darba boagoro, darba garengoro. Beleno mi jonara. Ee nirbo kajingba. Ee nirbo kujowa. Ee nirbo kajingba. Swe koyom jom.
I'm standing on steel. Je suis debout sur de l'acier. Par Mandawa Yunupingu. Alors ça montre cette volonté d'intégrer la modernité. Jessica de Largilly, vous connaissez très bien cette famille Yunupingu et toute la région. Comme anthropologue doctorante, vous avez longuement séjourné, 18 mois disiez-vous, dans cette région. Alors peut-être un mot de Mandawa Yunupingu, qui est une star en Australie.
Mandawa Yunupingu est le chanteur du groupe Yotu Indi qui, dans les années 90, a fait une tournée internationale et a vendu beaucoup de disques. La particularité de ce groupe de rock, c'est que il intègre, comme on l'a entendu, les thèmes traditionnels Yunupingu avec de la musique moderne, des guitares électriques, etc.
Et il peut aussi chanter a cappella, il nous l'a prouvé. Alors Jessica, essayons de peut-être comprendre où se situe ces Yunupingu qui est visiblement ont quand même subi une dépossession, qui après ont su remonter le courant, ont obtenu un certain nombre de choses, et tout ça dans un contexte plus large qui est celui de la défense des aborigènes de la terre d'Arnhem pour leurs droits territoriaux. Et ils ont quand même regagné beaucoup de terrain depuis quelques années, ces aborigènes.
C'est dans les années 60 en fait que une grande partie de cette histoire politique a commencé, quand effectivement, comme le disait Golombo, du jour au lendemain, une partie de leur terre a été excisée pour construire une mine de bauxite. Les Yunupingu n'ont pas été consultés. Donc très peu de temps après ça, ils ont créé ce qu'on appelle la pétition en écorce, où ils ont peint sur des écorces leurs motifs traditionnels avec une pétition écrite en Yunupingu et en anglais, pour envoyer au Parlement, pour en fait revendiquer leur propriété traditionnelle du sol. Cette pétition n'a pas abouti malheureusement, mais ou directement puisque la mine a été construite, mais peu de temps ou une dizaine d'années plus tard, ça a en fait mené à la première loi en Australie qui a donné, qui s'appelle le Land Rights Act en 76, qui a donné les titres fonciers autochtones donc aux propriétaires traditionnels.
Alors en l'occurrence, cette pétition sur écorce, ça veut dire que une des fonctions de la peinture, et pour nous évidemment c'est pas très habituel, c'est de manifester un droit de propriété.
Absolument, puisque en fait chaque clan Yunupingu, et il y en a peut-être une vingtaine, possède ses propres motifs qui leur ont été légués par les ancêtres créateurs. Donc peindre ces motifs, c'est vraiment exprimer son affiliation à la terre et sa propriété du sol. Donc les grands dirigeants rituels de l'époque ont peint sur cette pétition pour vraiment faire reconnaître le fait qu'ils étaient les propriétaires du sol.
Ils ont rencontré dans un premier temps une grande incompréhension à Canberra.
Oui, tout à fait, mais Canberra a quand même envoyé un comité pour en fait contrôler dans quelle mesure s'était fait cette excision de la terre, et ce qui a abouti donc plus tard au passage de cet acte de loi qui reste à ce jour le plus important en Australie.
Alors plus largement, la peinture manifeste aussi une relation très étroite au monde, et c'est ce que fait également la musique. On a toujours ce balancement entre peinture et musique, d'ailleurs dans la famille Yunupingu, les créateurs, soit peintres, soit musiciens. Et là, en dehors de la politique, on va plus vers une espèce de proclamation, de fusion, enfin, en quelque sorte, avec le territoire sur lequel on a d'ailleurs à la fois des droits, mais aussi des devoirs.
C'est une de ces genres qui ne peut pas être traduit, mais voilà, c'est dans la ligne ancienne, c'est une chanson sur un jeune homme, un jeune aborigène, sur les jeunes aborigènes. C'est comme un aimant pour les jeunes aborigènes, pour qu'ils puissent raccrocher, se rapprocher de la façon dont la société aborigène travaille. Mais ça a à voir avec les jeunes. Des jeunes garçons, des jeunes filles, tous les deux, les deux parties, comment ils se rencontrent. Et fondamentalement, c'est ce dont je parle dans cette chanson, c'est le système Malk. C'est l'identité que chacun d'entre nous, chaque individu, spécialement les jeunes du nord-est de la terre d'Arnhem, ont comme identité.
I won't know my book would have a
On a eu beaucoup de chance pour ce reportage parce qu'on est arrivé chez Gulumbu Yunupingu et puis incidemment j'ai parlé du didgeridoo et on m'a dit vous pouvez aller voir Djalou, il habite juste à côté. Djalou, c'est une star pour tous les amateurs de didgeridoo, enfin c'est vraiment le grand joueur de didgeridoo. On l'entend avec son beau-frère qui chante et qui frappe deux clapsticks l'un contre l'autre. Et puis auparavant c'était à nouveau Mandawai Yunupingu qui nous parlait alors de ce système Malk, qui est apparemment il s'agit d'une cérémonie sacrée, Jessica.
Le Malk, c'est un système de parenté, de sous-section. En fait, les Yolngu, depuis des dizaines et des dizaines d'années, sont un véritable casse-tête, la parenté Yolngu pour les anthropologues. Malk, ça fait partie de ce qu'on appelle une sous-section. Donc, les Yolngu sont divisés en plusieurs sections, selon leur parenté, etc.
Oui, ça crée tout un maillage entre les gens qui est extrêmement compliqué. À déchiffrer.
Voilà, chaque individu est au cœur d'un réseau qui lui est unique et en fonction de ce qu'on appelle la parenté classificatoire. Ce dont Mandawai parle, c'était les cérémonies d'initiation des jeunes garçons et des jeunes filles qui continuent aujourd'hui où ils vont véritablement devenir des hommes et des femmes. Donc pour les petits garçons, c'est vers l'âge de 10 ans et ça commence par la circoncision.
Et alors en anglais, il y a une expression qu'ils utilisent, c'est to go through law, ça veut dire passer par la loi. Avec un grand L.
Voilà, donc en fait, c'est durant ces cérémonies d'initiation, on va répliquer des événements qui ont eu lieu dans un passé ancestral par donc les ancêtres créateurs de chaque clan. Donc chaque clan aura ses propres thématiques qu'ils vont pouvoir mettre en scène ou durant ces cérémonies d'initiation.
Donc on réactive les origines
Et on dit en même temps la parenté.
Voilà, chaque enfant, par exemple les petits garçons, vont avoir sur leur torse des peintures corporelles extrêmement sophistiquées et très précises, représentant les motifs de leur clan. Et en peignant cette peinture sur leur torse, ils vont être empreints d'une certaine façon du pouvoir sacré des ancêtres créateurs.
Et ce sont ces mêmes motifs donc qui ont été transposés sur de la toile ou sur l'écorce.
Dans la peinture contemporaine, oui.
Alors, au sein de cette société Yolngu, des aborigènes de la Terre d'Arnhem, eh ben, évidemment, il y a un instrument qui est capital, hein, qui sous-tend toutes ces cérémonies. Et les grands maîtres de cet instrument, je l'ai dit, sont là. C'est le fameux didgeridoo, que les Yolngu, d'ailleurs, appellent yidaki.
Fondamentalement, c'est un tube en bois, qui était vidé par les termites. Et on sort, on cherche l'arbre, on tape sur l'arbre, on tape dessus, on écoute la résonance de l'arbre creux, et on abat l'arbre, on le nettoie, on le coupe pour avoir la taille de l'intérieur creux, parfois on le peint. On voit beaucoup de plus modernes avec un embout fait en cire d'abeille, alors que les plus anciens sont faits directement dans le bois, et on tape sur le bois, on joue sur le bois. La note de base, c'est simplement en faisant vibrer les lèvres. On met la bouche dedans. Bon, ça c'est le plus simple, on fait comme ça. Ah là, j'ai triché, j'ai commencé avec la langue, j'ai fait tout sans la voix. On peut ajouter la voix. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais le jouer et je vais chanter en même temps. Pa 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 pa. À la fin, on peut changer la forme de la bouche. On forme des voyelles, une façon la plus simple de le faire. B-O-U-A. Bon, ça c'est là comme ça en bougeant la bouche, en bougeant la langue. Et puis, on peut faire des choses plus drastiques avec la voix aussi. Ma plaisanterie favorite, c'est que je dis parfois, ça a l'air d'engueuler l'instrument, mais en fait, on crie dans l'instrument. Et je vais en faire un petit peu. Bon, désolé. Alors ça, c'est d'ordinaire, c'est ce qu'on fait. On peut aussi jouer à la trompette. On met les lèvres un peu plus serrées. Et de la façon traditionnelle, on a simplement la première note, mais à travers le monde, les gens ont repris cet instrument et on fait ce qu'on veut. Mais, ah oui, une chose de plus, on utilise la langue. De façon normale, l'utilisation de la langue est déterminée par le langage parlé. Ils font des choses avec la langue auxquelles on penserait pas nous, comme l'utilisation de la rétroflexion de la langue, et on tape sur l'arcade dentaire derrière les dents. Et beaucoup de langages ont cela. Donc je vais jouer rapidement le vieux style, l'ancien style, ça fait drl drl, et je jouerai drl 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 drl, comme ça. Et de façon plus moderne, et pas de la façon Yolngu de le jouer, on l'entendra beaucoup à travers le monde, plus dans un type de cuivre comme tac 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 ou tac 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 tac, des trucs comme ça, je vais en jouer un peu.
C'était
le conservateur des didgeridoos au centre d'art de Yirrkala, qui nous a donné une petite leçon de didgeridoo. Jessica de l'Argili, vous qui avez longuement séjourné dans cette partie de l'Australie, vous n'avez pas joué de didgeridoo, qui semble être un instrument réservé aux hommes.
C'est traditionnellement effectivement réservé aux hommes, mais Djalo Gorewiwi, qu'on a entendu tout à l'heure et qui est reconnu comme étant le maître du Hidaki, comme on dit pour chez les Yolngu, se réserve le droit d'enseigner à qui veut apprendre. Donc il est arrivé qu'il ait enseigné à des femmes. Ce que je voulais rajouter par rapport au témoignage qu'on vient d'entendre, c'est que chaque clan Yolngu possède ses propres musiques, ses propres rythme au Hidaki. Donc comme les peintures, comme les noms, les rythmes joués sont aussi la propriété des clans. Donc en entendant quelqu'un jouer du didgeridoo, on peut savoir tout de suite de quel clan il vient. Et Djalo avait dit durant un festival de Garma, avait expliqué à une audience de fans que pour lui d'entendre un blanc jouer du didgeridoo, c'était comme un chat qui marche sur un piano. Ça n'avait aucun sens.
Et pourtant, il l'enseigne, puisque le jour où nous sommes allés le voir, il avait un stagiaire italien. Donc, il partage tout de même cette connaissance.
Bien sûr, il partage et il donne la permission aux blancs de jouer. Ce qui l'intéresse, lui, c'est qu'on reconnaisse que c'est un instrument qui vient des Yolngu. Mais ils ont leur propre rythme, leur propre musique sacrée. Ce qu'il enseigne, c'est des éléments de ça. Et ensuite, ça peut être approprié par les blancs pour jouer leur propre musique. Mais pour les Yolngu, cette musique des blancs au Hidaki n'a aucun rythme.
Oui, ça reste très extérieur. Enfin, ça reste un art d'agrément, alors que eux sont dans la vraie signification de cette musique de didgeridoo,
qui est rituelle. Donc, pendant les cérémonies, il y a toujours des joueurs de hidaki, de didgeridoo, qui accompagnent les cycles de chants, qui narrent les exploits des êtres ancestraux durant les temps de la création.
Alors, c'est tout de même un instrument qu'on retrouve ailleurs, dans d'autres populations aborigènes d'Australie. Il porte un autre nom, il s'appelle pas le Hidaki, mais c'est quand même un instrument très répandu dans le continent austral.
À l'origine, ça venait du nord du continent. On retrouve ça dans les Kimberley, en terre d'Arnhem. Et puis, par des réseaux d'échange, ça a pu être distribué plus au sud du pays.
Alors, cette capacité à échanger, justement, on peut la comprendre à travers ce que vous nous disiez. Chacun est détenteur d'un morceau d'histoire, d'un motif, d'une phrase musicale. Mais ça vient se combiner à d'autres qui sont détenteurs d'autres parties de l'histoire globale, en fait.
Une des relations fondamentales des Yolngu, c'est ce qu'on appelle la relation Yotu-Indi, du nom du groupe rock de Mandawoy, et c'est la mère et l'enfant. Et en fait, cette mère-enfant, c'est vraiment ça montre comment les opposés doivent fonctionner ensemble. Et le groupe mère sera les propriétaires du rituel, et ne pourront pas organiser une cérémonie sans avoir les enfants qui sont là, qui joueront le rôle de manager. Et on retrouve cette double fonction manager-propriétaire dans plusieurs régions d'Australie.
On aura compris jusqu'à maintenant que les populations aborigènes qui vivent en terre d'Arnhem, et notamment les Yolngu, sont des gens qui ont un sens très fort de leur identité, une fierté même. Et maintenant, il faut qu'on aborde, pour être tout à fait juste, l'autre volet, parce que quand on se rend dans ces régions, à la fois on est ébloui par le foisonnement de cette culture qui est très différente, dans laquelle on pénètre comme ça avec beaucoup d'humilité, et puis on est confronté malheureusement à des très grandes difficultés que traversent ces sociétés-là. C'est l'alcool, c'est la violence, et c'est de toute évidence les conséquences du choc avec le monde extérieur. Alors la petite ville minière, donc occidentale, qui est tout près, s'appelle Nulumboy. C'est une ville moderne, un peu une ville coloniale, et elle abrite une population blanche qui est assez remontée finalement contre les aborigènes. Alors on a croisé une dame qui nous a parlé de ça volontiers, très librement, en français. C'est une Québécoise de Montréal qui travaille dans une agence de voyage, et elle est là parce qu'elle a suivi son mari pour quelques années avec ses deux enfants.
Beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de chicanes, il y a surtout, c'est parce qu'ils ont plusieurs petite communauté entre eux autres. Puis, bon, il peut y en avoir un qui est parti avec la femme de l'autre ou, bon, ces choses comme ça. Puis, ce qui fait que la chicane prend, puis ça finit que... Bon, la semaine dernière, on en a eu un qui est décédé. Ils l'ont retrouvé dans la cour de l'école secondaire le lendemain matin à cause que c'était une bataille. Mes impressions, moi, le gouvernement leur donne trop, puis ils prennent avantage de ça. Ils pensent que, bon, pour vous donner un exemple, la semaine passée, il y a eu la clinique pour les aborigènes. Ça faisait quelques mois qu'ils avaient commencé, 2 jours par semaine, ils leur donnaient déjeuner gratuit. Puis le matin, on a manqué d'électricité, un matin, alors ils n'ont pas été capables d'avoir leur déjeuner. Là, ce soir-là, ils étaient... à cause qu'ils n'ont pas eu leur déjeuner gratuit, ils ont brisé toutes les portes, les fenêtres de la clinique. Bon, là, c'est fini. Le président de la clinique a dit, non, on n'a plus de déjeuner. Assis à côté de mon garçon dans sa classe, il y a un aborigène que lui est payé pour aller à l'école. Lui a le droit d'avoir le micro-ondes pour réchauffer son dîner. Mes enfants, eux, n'ont pas le droit. Mes enfants sont pas payés pour aller à l'école. Fait que ça, c'est un peu frustrant pour les enfants parce qu'ils savent qu'eux autres sont payés pour aller à l'école et pourquoi nous, on ne l'est pas. Je pense que ça devrait plus être égal. Oui, ils devraient avoir des sous pour s'acheter du linge, puis bon, des souliers, puis c'est parce qu'ils sont là, comme vous avez sûrement remarqué, ils sont tous nu-pieds. Ça, oui, je comprends. Ils devraient avoir des moyens à louer pour eux pour s'acheter des choses. Mais de là, à les payer pour se présenter à l'école quand un autre l'est pas, ben, il y a des familles qui sont de notre couleur, qui sont aussi, qui ont des misères, puis sont obligées d'aller à l'école, puis sont pas payées. Alors, c'est comme ça que les enfants le voient. Ici, il y en a tellement que j'en ai vu un, ramasser un qui était, il dormait. Dans une cour. Puis on pensait, bon, il va se faire écraser. Il est dans le milieu de la cour. Il y a des autos qui pourraient se parquer. Le policier est arrivé. Il l'a ramassé par le bas de culotte, garroché en arrière de l'auto. Puis, mais ils vont seulement que le mettre dans la selle pour la nuit. Le lendemain matin, il s'en va, c'est fini. Il recommence.
Ils vont seulement le mettre en prison pour la nuit.
Oui. C'est pas vraiment... Ils vont avoir son lit, ils vont avoir à manger, puis il va dormir, il va se lever, il va partir. Puis le même soir, tu peux retrouver la même personne qui fait la même chose, parce que c'est une roue qui tourne, il arrête pas, ça. C'est toujours la même chose.
Donc, vous pensez qu'il faudrait des punitions plus fermes, plus... vraiment, qui marquent, quoi?
Je suis même pas sûre que ça fonctionnerait non plus. C'est leur façon de vivre, puis c'est juste... Ils connaissent seulement que ça. Je suis pas sûre qu'il y a pas d'autre, qu'on pourrait faire quelque chose pour changer ça. Souvent, nous, on retrouve des gens endormis sur le bord, sur la petite plateforme. Ici, on est obligé de les réveiller puis leur dire de s'en aller. Il y a 9h. Nous, on commence notre journée. Toi, tu dois partir. Ce matin, il y en a 2 qui sont venus nous demander de l'eau. Mais on peut pas leur dire oui. Si on leur dit oui une fois, ils continuent de revenir. Ça finit plus. On peut pas passer notre journée à leur donner de l'eau ou à leur donner ce qu'ils demandent. Fait qu'il faut quand même qu'on... Même que tu veux leur faire, parce que c'est juste de l'eau, ils ont besoin de boire, mais si on commence, on s'arrête plus.
Voilà, petite chronique du racisme ordinaire dans cette ville du nord de l'Australie, tout à côté de la Terre d'Arnhem, puisque la ville elle-même ne fait pas partie maintenant de la Terre d'Arnhem. Donc cette Québécoise qui travaille dans cette agence de voyage, qui est là avec ses 2 enfants et qui voit cette scène aborigène. Jessica de l'Argilly, vous avez donc vécu 18 mois dans cette communauté aborigène. Ce que dit cette femme reflète, je crois, assez fidèlement ce que beaucoup de Blancs disent quand ils parlent des aborigènes qui sont leurs voisins.
Malheureusement, ça reflète, oui, des idées que partagent un certain nombre d'Australiens.
On leur donne trop.
Qu'on leur donne trop, qu'ils ont des avantages par rapport aux Australiens, aux Australiens blancs. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que cette mine est construite, donc la ville est construite vraiment au cœur de la Terre d'Arnhem, et cette femme n'a visiblement jamais eu de conversation avec des aborigènes.
Directement, non, directement. C'est ça, elle ne voit que ceux qui sont cassés.
Alors voilà, et c'est souvent le cas, malheureusement, que dans les villes, il y a les pubs. Et ça a été évoqué au début de l'émission, ces pubs qui se sont donc implantés au même moment que la ville et contre lesquels il y a eu beaucoup de protestations de la part des aborigènes qui pressentaient les dangers que ça pouvait représenter. Et effectivement, à Nhalumboy, on voit souvent des aborigènes qui viennent pour boire. Donc c'est le but de la visite, comme d'ailleurs dans des villes comme Alice Springs, où les problèmes sont les mêmes. Et donc, ils boivent à l'excès et on les retrouve allongés, parfois dans des endroits qui peuvent être très dangereux pour eux. Comme là, bon, cette femme dit qu'ils se font ramasser par la police, mais c'est surtout pour les protéger eux, parce qu'en fait, ils ne font rien de mal. Ils ne font que dormir dans des endroits qui peuvent être dangereux.
Alors, Nhalumboy, c'est la ville blanche. On peut peut-être donner quelques chiffres. La communauté Yolngu, qui est tout autour, c'est de l'ordre de combien
environ,
de personnes?
Environ 8000 personnes.
Réparties donc à la fois le long de la côte et dans les îles.
Voilà, c'est ça.
Puisqu'on est le long de la mer d'Arafura, un endroit d'ailleurs magnifique, la mer est turquoise. On peut pas se baigner parce qu'il y a des crocodiles. Et face à ça, il y a une petite communauté blanche très dense, de quelques milliers de personnes.
Voilà, qui se trouve précisément à Nhalumboy. C'est la seule ville blanche dans l'est de la terre d'Arnhem. Et pour aller dans les communautés aborigènes, il faut avoir des permis. Il y a tout un système de permis. C'est justement une des conditions établies par la loi de 1976, le Land Rights, qui a créé un système de permis pour pouvoir se rendre dans les terres aborigènes.
Alors la violence dont elle parlait, faut quand même en dire un mot. C'est vrai qu'il y a un système quand même de vengeance qui aujourd'hui fonctionne entre communautés aborigènes quand il y a des frictions et qui semble provenir du fait qu'autrefois les tensions étaient régulées par les intermédiaires traditionnels, les anciens, les personnes qui avaient autorité à l'intérieur des groupes, et qu'aujourd'hui c'est une espèce d'anarchie qui fait que la violence éclate pour un oui, pour un non.
On peut aussi expliquer cela par le fait que les populations qui sont maintenant sédentaires, donc ces plusieurs clans qui pouvaient être des clans ennemis sont maintenant groupés dans un endroit. Les ressources sont vraiment très très rares. La condition de logement est insoutenable. Il y a souvent plus de 20 personnes qui vivent dans les mêmes maisons. Donc il y a une grande proximité. La situation sociale au niveau de l'emploi est catastrophique. Il n'y a aucun emploi dans ces petites communautés. Donc on assiste vraiment, on a des situations de tiers-monde, quart-monde dans ces communautés. Et tout cela et le fait que les processus de résolution des conflits traditionnels ne sont plus appliqués. C'est ce qu'on appelait Makarata, où effectivement les clans qui avaient des choses à régler entre eux avaient un rituel pour résoudre ces conflits.
Notamment, on mettait une lance, enfin quand quelqu'un avait fauté, on lui lançait le mollet.
Les gens qui sentaient qu'il y avait eu une injustice pouvaient envoyer des lances sur la personne qui avait commis un crime, et une fois que le sang était versé, on considérait que justice avait été rendue. Maintenant, avec la loi australienne qui est venue se greffer sur tout cela, et on n'a plus le droit de faire ça, bien sûr.
Alors, le regard sur cette question de la violence et de la très grande difficulté de la société aborigène, le regard va être maintenant celui de Will Stubbs, qu'on a entendu tout à l'heure, qui est le directeur du centre d'art. Il a un regard d'Australien, mais un Australien tout de même très impliqué, d'abord parce qu'il est l'employé de la communauté aborigène en tant que directeur du centre d'art, et qu'il est lui-même d'ailleurs marié avec une aborigène, Will Stubbs.
Part of the modern
Une partie du dilemme moderne des Yolngu, c'est que c'est un problème politique. On parle d'eux tous les jours sur les médias nationaux, sans qu'on leur parle à eux. Et ça se passe comme ça depuis tout de suite après, depuis 1963, où ils ont envoyé une pétition. Et pendant 200 ans, il n'y a eu aucune discussion avec eux. Ils étaient invisibles. Et je pense que il faudrait trouver un équilibre heureux quelque part, mais chaque jour, il y a un nouvel ingénieur social avec des nouvelles théories, comment régler le problème aborigène, pour ainsi dire. Et Des gens comme moi, parfois, suspectent que le problème de ces gens-là, c'est que ce sont des aborigènes. Et peut-être la solution qu'ils cherchent, c'est la solution finale. Et à l'évidence, nous, comme tous les gens modernes, nous devons changer. Et le rythme du changement est difficile. Et vous savez que dans votre propre pays, il y a un historique de gens qui ne sont pas à l'aise avec la rapidité du changement. Ce que les Yolngu doivent faire, c'est pas simplement le rythme du changement au cours des trois dernières générations, mais on attend d'eux qu'ils rattrapent les 40 générations précédentes et avec cette révolution industrielle. Et ensuite, reprendre ce rythme du changement constant et dans le cours de leur propre vie. Et l'artiste auquel vous avez parlé, c'est un bon exemple. Elle a grandi avec ses parents qui étaient des responsables importants et puis, si vous voulez, des scientifiques européens sont venus, occidentaux sont venus, se sont installés sur leur terre, ils ont tissé des relations avec ces gens, elle a été incluse dans la mission qui était établie là-bas, en tant que personne qui excellait en tout, elle a excellé dans cela aussi, et elle a traduit la Bible en langue Yolngu, avec quelques aides sur à peu près une période de 20 ans. Ensuite, elle s'est rendue compte que sa culture n'était pas respectée du côté chrétien. Et donc, bien qu'elle ait conservé quelques fois de ce côté-là, du côté politique, elle s'est dirigée vers... elle a compris que sa communauté était dépréciée, méprisée. Elle a mis en route ses ressources pour que sa culture survive. Et avec ses frères, et donc dans les écoles locales, elle est impliquée dans le développement des cours, elle fait des ateliers, elle donne aux gens l'expérience que vous avez eue hier, elle la donne à sa propre communauté et sa peinture fait partie de cela. Elle continue les pratiques secrètes des femmes, elle intègre son rôle, elle prend son rôle au sérieux pour faire passer ses connaissances dans sa propre culture, sa sixième, septième génération de connaissances de guérisseuse. Elle le fait passer au blanc, au noir, en raison de la qualité de ses idées, de ses connaissances, et non pour des raisons partisanes. Et comme beaucoup de gens de sa génération, ils ont répondu à ces pressions et à ces politiques en s'ouvrant et non pas en se refermant, en partageant, comme dans les arts, comme ici, en montrant ici des choses qui étaient cachées précédemment, de sorte que les cœurs des autres personnes peuvent être touchés et être changés. Et elles peuvent apprendre à respecter les Yolngu comme des êtres humains, tout comme ce respect est donné à des non-aborigènes.
Alors cet artiste dont parlait Will Stubbs, le directeur du centre d'art de Yirrkala, c'est bien entendu Gulumbu Yunupingu, qui est le trait d'union, le fil rouge de cette émission, qui est d'ailleurs la sœur de celui qu'on entend en ce moment, Mandawai Yunupingu. Alors Gulumbu, elle s'est mise à peindre assez récemment, il y a quelques années, puisque, on le disait tout à l'heure, la peinture était autrefois réservée aux hommes, et son propre père peignait
avait des étoiles comme elle, mais elle ne le savait pas. Et il y a eu un moment très émouvant parce qu'elle nous a confié que peindre des étoiles est une chose qu'elle a faite comme ça, sans doute conformément au motif de la famille. Et un jour, elle a découvert que c'était exactement ce que faisait son propre père. Et c'est ce qu'on va découvrir au musée du Quai Branly, donc sur ce merveilleux plafond. Gulumbu Yunupingu, la femme aux étoiles.
Je ne l'ai pas vu peindre des étoiles. Peut-être est-ce lui qui m'a mis les étoiles dans la tête. Parce qu'il m'a transmis sa connaissance. Et je ne savais pas qu'il peignait des étoiles avant. Jusqu'à ce que je vois des photos de ses œuvres. Et puis j'étais choquée. Mais ça ressemble à mes étoiles. Ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a fait comprendre. Qu'il l'avait fait avant moi. Ça a à voir avec l'histoire de ma famille, avec les rêves, avec l'histoire des sept sœurs. En fait, je m'intéresse à tout l'univers. Mon histoire a à voir avec tout l'univers. Takara, comme nous disons dans notre langue, les étoiles. Les étoiles vers lesquelles nous levons tous les yeux. Ces magnifiques étoiles. Et quand nous allons camper, nous dormons dehors sur la plage, nous levons les yeux et nous voyons les étoiles. Il y en a que vous ne pouvez pas voir et d'autres que vous pouvez voir. Vous ne pouvez pas voir celles qui sont tout là-bas, là-bas. C'est pour cela que je dessine des petits points en arrière-plan. Ces points, ce sont les étoiles qu'on ne peut pas voir. Ce qu'il y a au-delà, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a au-delà.
Is there a special story about the seven sisters? I mean, does it, is it a dreaming?
Les sept sœurs, ce sont les bonnes étoiles. Ce sont les bonnes étoiles. Avant, les gens, les miens, mes ancêtres, adoraient les étoiles et ils espéraient recevoir plein de nourriture, la nourriture de la brousse, du poisson, des tortues, des œufs de tortue, la nourriture de la brousse, les ignames, tout ce qu'on trouve dans la brousse. Voilà. Ces étoiles donnent de la nourriture. Et on mange de la viande aussi, des tortues, des kangourous, des wallabies, des iguanes, des tortues, du poisson. Et l'huile de tortue, on s'en sert aussi pour les cheveux. Parfois, on enduit les bébés pour que leur peau reste saine. On leur donne à manger de la tortue, de la raie. Et l'huile, on la met sur leur corps.
Buddha Mata Bang Bang Om.
Voilà, comme ça, tout vient des étoiles, d'après Gulumbu Yunupingu. Et quand on l'écoute parler, cette femme, on a un peu envie de penser à ce que disait Nietzsche, ce qui ne vous tue pas vous fortifie. Gulumbu est une femme d'une envergure exceptionnelle. Elle va venir à Paris, elle va venir pour inaugurer son plafond au musée du Quai Branly. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de gens pour la rencontrer, pour écouter sa parole. Vous la retrouvez d'ailleurs ce mois-ci dans les pages de Géo Magazine. Vous la verrez en train de peindre grâce aux photos d'Arnaud Baumann. Et puis vous trouverez aussi dans ce géomagazine des autres artistes du musée du Quai Branly que nous rencontrons tout ce mois, donc encore pendant deux émissions. Pour comprendre cette si riche et foisonnante peinture aborigène, Jessica de Larelji, il lit votre livre, coécrit avec Barbara Glozewski, Piste de rêve, voyage en terres aborigènes, qui est paru il y a quelque temps aux éditions du Chêne, donc quelques pistes hein, pour comprendre cette peinture. Et puis, ça n'a pas été simple, hein, parce que ce sont des choses très complexes qui se jouent dans la peinture aborigène.
Je pense que la dernière déclaration de Gulumbu nous éclaire bien sur ces peintures, au-delà des étoiles, donc ce qu'on peut voir, ce qui est visible dans ces peintures et ce qui ne l'est pas, le lien entre les morts et les vivants et une autre forme de spiritualité.
Beaucoup de pistes pour d'éventuelles lectures ou des documentations personnelles sur notre site franceculture.com en cliquant sur tout un monde dont la première partie se termine. À la technique se trouvait Mathieu Ribaud, à la réalisation Guillaume Baldi. Merci à Will Stubbs du Bukulangai Art Center, ce qui veut dire soleil levant, tout un programme. Les traductions nous ont permis d'entendre la voix de Marie-Madeleine Goffin de Michel Zlotowski. La semaine prochaine, nous serons toujours en terre d'Arnhem, un petit peu plus à l'ouest, avec John Mawanjoul. Tout un monde, le magazine des cultures et des identités en mouvement, vous est proposé avec le concours de Fanny Richer par Marie-Hélène Fraissé. Tout de suite, les échos de la planète francophone. Nous partons fureter dans les catalogues de nos confrères et consoeurs des radios de langue française.